Voilà, donc nous nous retrouvons pour, dans la continuité de ce que nous avons vécu hier soir, pour méditer et pour tirer quelques leçons spirituelles de ce que nous avons déjà vécu des autres années. C'est pour cela que nous pouvons le revivre cette année, enfin nous pouvons en parler avant de le vivre, parce que comme je vous l'ai dit hier, normalement il faut d'abord vivre la liturgie de l'Église, c'est-à-dire cet avènement, cette rencontre avec le Seigneur dans les rites et dans les prières que l'Église nous donne, avant d'en parler, parce que sinon ça nous conditionne trop, et puis finalement on ne vit pas les choses avec le cœur, on ne se laisse pas rejoindre. Donc nous allons continuer notre méditation. Aujourd'hui, c'est dans la continuité de ce que nous avons vécu hier soir. Hier soir, ce que nous avons vécu se termine par le Saint-Sacrement qui est porté dans une chapelle, normalement un lieu inhabituel où on met le Saint-Sacrement. Hein. Là, cette année, on l'a mis ici parce que pour des raisons techniques, puisque de l'autre côté, dans l'autre chapelle, on ne pouvait pas y aller. Donc, nous sommes ici pour accompagner le Saint-Sacrement, mais c'est surtout parce que dans le Saint-Sacrement, nous savons que c'est la présence du Seigneur, puisqu'il nous l'a dit, nous l'avons entendu nous le dire. Hein, ceci est mon corps livré pour vous. C'est la présence du Seigneur, que le Seigneur est dans cette dynamique de don et qu'il nous invite à le suivre, à l'accompagner, comme il invite ses disciples à l'accompagner. À un moment, Jésus dit « Levons-nous et allons ». Et donc il va à Gethsémani, pour ceux qui sont allés sur place, il va à Gethsémani et il commence son agonie. Et il a avec lui quelques disciples qu'il a choisis et qui vont s'endormir régulièrement. Et donc nous, peut-être personne ici n'a dormi cette nuit, mais en général nous nous endormons régulièrement. Hein, et le Seigneur, alors c'est le grand, on voit Jésus, il demande « Priez pour moi à un moment précis ». Et puis ensuite, à un moment, il dit « Bon, maintenant, c'est bon, vous pouvez y aller ». Et c'est aussi intéressant de voir que ça veut dire qu'il y a des moments dans nos vies, des moments particuliers, où nous sommes invités à prier avec instamment, et d'autres moments, voilà, il faut à s'abandonner, il faut se laisser faire, il faut toujours prier, évidemment, mais voilà, l'intercession peut prendre une densité particulière à certains moments de nos vies, de la même manière que Jésus l'a demandé à ses disciples de l'accompagner dans cette prière, et de lui tenir compagnie. Hein. Jésus, en soi, on aurait pu penser qu'il n'avait pas besoin de cette compagnie. Hein. Pourtant, il la souhaite. Et cette compagnie qu'il a souhaitée des disciples à ses côtés, eh bien, c'est une réalité toujours aujourd'hui. Hein. Comme dit le philosophe Pascal Blaise, le Christ est en agonie jusqu'à la fin des temps. Donc, il a toujours besoin de cette présence à ses côtés, de cette présence priante. Son épouse, l'Église, les membres de son corps, que nous sommes, l'Église, a cette mission de se tenir aux côtés de Jésus. C'est pour ça que la mission de la prière dans l'Église est une mission très importante et à ne pas sous-estimer. Hein, pas simplement pour notre bien personnel, même si c'est bon pour nous. C'est aussi parce que le Seigneur veut que nous soyons à ses côtés, hein, que nous l'accompagnions dans son œuvre de rédemption du monde. Et comme vous connaissez cette parole de saint Paul, hein, je complète dans mon corps ce qui manque aux souffrances du Christ. C'est une parole assez étrange, puisqu'il ne manque rien aux souffrances du Christ. Mais c'est une volonté du Seigneur de nous associer. Hein, comme l'Église, son épouse, il l'associe à son œuvre, mais aussi parce que nous sommes membres de son corps, nous sommes son corps, et donc il veut que nous soyons d'autres Christ, et que nous-mêmes, nous marchions avec lui, nous agissions avec lui, nous soyons vraiment une présence à ses côtés. Le Seigneur continue à former son Église, hein, c'est un peu le thème que j'ai voulu développer un petit peu plus hier à cause des circonstances actuelles. Hein, bon, j'ai pas évoqué l'incendie de Notre-Dame, mais c'est assez symbolique. Hein, on peut l'y voir en début de semaine sainte, c'est assez symbolique cet incendie. Hein, il ne s'agit pas d'y voir non plus plus qu'il lui faut, mais c'est vrai qu'une Église qui est symbole de l'Église, qui brûle, c'est vraiment le symbole de cette Église qui est malmenée, maltraitée par ses membres. Hein. Cette charpente, tout ça qui va brûler, qui datait de 800 ou 900 ans. Bon, c'est quelque chose de troublant, d'incompréhensible même pour certains experts. Donc, enfin, voilà, on peut méditer aussi là-dessus. Ça peut nous aider sur ce mystère de l'Église. Et pourtant, cette Église va être bâtie. Elle va être bâtie. Et l'histoire de Notre-Dame de Paris, on pourrait prendre d'autres églises comme ça, des très anciennes églises, c'est des églises continuellement rebâties. Hein, Notre-Dame de Paris a vécu beaucoup, beaucoup d'événements dans son histoire. Dans ses 800 ou 900 ans d'histoire, eh bien, elle en a vu un peu toutes les couleurs. Elle n'a jamais brûlé, c'était la première fois, mais sinon, elle a été malmenée au moment de la Révolution, et même avant, il y a eu plusieurs épisodes douloureux, et à chaque fois, elle a été reconstruite, avec quelques modifications à chaque fois, mais toujours en respectant le premier édifice et le génie des artistes qui l'ont constitué, qui l'ont fait. Et cette église, si on peut prendre l'image de cette église, hein, cette église de pierre, en pierre, eh bien, renferme quoi? Le Seigneur. Ce qu'il y a en son cœur, c'est le Seigneur. C'est la présence du Seigneur dans le Saint-Sacrement. Hein, c'est un écrin pour la présence du Seigneur. Mais cette présence du Seigneur dans le Saint-Sacrement, c'est Saint-Augustin qui l'explique très bien. Il dit, le but du Saint-Sacrement, ce n'est pas d'exister pour lui-même. Le but, c'est de former l'église des membres baptisés que nous sommes. C'est-à-dire que le Saint-Sacrement est fait pour être donné, pour être communié, hein, pour être reçu. Hein, et le Saint-Sacrement constitue, unit les chrétiens. Quand nous communions au même corps, nous formons son corps de façon exceptionnelle, c'est-à-dire de point sacramentel, au-delà de notre propre sainteté, au-delà de notre propre charité, qui est très très limitée, nous le savons. Hein, mais c'est pour que cette charité grandisse, cet amour mutuel grandisse, et que l'Église soit une réalité toujours plus présente. Donc nous avançons unis au Christ. Alors je cite de nouveau Sainte Catherine de Sienne. De vous tous, il a fait une seule vigne universelle, la chrétienté. Et vous êtes unis dans la vigne du corps mystique de la Sainte Église, dont vous tirez votre vie. Dans cette vigne est planté le cep de mon Fils unique, ce cep, sur lequel vous devez être greffé, ce cep que nous allons voir cet après-midi, cette croix, hein, ce cep. Ne pas l'être, c'est devenir aussitôt rebelle à la Sainte Église, devenir des membres qui, tranchés du corps, pourrissent aussitôt. Jésus le dit aussi sur toute la... Il y a le discours que Jésus fait justement le jeudi saint au soir auprès de ses disciples, hein, tout ce discours où il dit « Je suis la vigne et vous êtes les sarments hein, ». Celui qui est sur la vigne, eh bien ça va bien, il porte des fruits. Mon Père le taille pour qu'il en porte davantage, hein, ça veut dire aussi des choses. Le taille, il s'en occupe, mais c'est un peu douloureux d'être taillé. Par contre, ceux qui se coupent du cep, eh bien ils meurent, ils ne portent pas de fruits. Donc c'est la même idée, nous sommes, et c'est cette expérience, donc le Seigneur continue à former son Église, il nous greffe sur le cep qu'est le Christ, et cette greffe qu'il va prendre, c'est celle de la croix, hein, c'est celle du moment de la croix. Jésus va être blessé pour que nous puissions être greffés sur lui. Alors je vais y revenir là-dessus. Voilà. La célébration... Alors, je dis en passant très très vite qu'il y a la coutume ce vendredi, le vendredi saint, de prier le chemin de croix. Ce n'est pas une liturgie de l'Église, hein, c'est une prière de dévotion. L'Église a en haute estime, hein, c'est le Concile Vatican II qui le dit, en haute estime toutes ces prières de dévotion. En particulier, parmi elles, le chemin de croix et le chapelet, qui sont les grandes prières de dévotion, mais toutes les autres prières, elle les respecte vraiment. Mais elle dit, il faut les mettre à leur place juste. C'est-à-dire que c'est la liturgie qui actualise, qui donne la grâce, et ces prières de dévotion nous aident à vivre et à accueillir la grâce que nous recevons par la liturgie. Je fais ça très, très vite, très brièvement. Cet après-midi, en méditant le chemin de croix, nous nous préparons, pour ceux qui auront la chance après d'être à l'office derrière, nous préparons nos cœurs par une méditation à accueillir vraiment ce qui nous sera donné par la liturgie du soir. Enfin, la liturgie de la Passion du Seigneur. Donc, cette liturgie de la Passion du Seigneur se déroule en trois temps. Il y a une liturgie de la parole, avec la lecture de la Passion, de Saint Jean. Ensuite, il y a une vénération de la croix, avec une prière universelle, une grande prière universelle. Et puis, enfin, il y a la communion. Alors, d'abord, la liturgie de la parole. Donc, la liturgie du Vendredi Saint est une liturgie très dépouillée, très sobre, un peu douloureuse, on va dire, quelque part, hein. Ceux qui aiment bien un peu quand ça se développe, c'est un peu mon un peu mon style. J'aime bien le côté un peu populaire de la liturgie, où on en rajoute un petit peu trop parfois. Enfin, on est généreux, disons. Bon, ben là, c'est une liturgie très sobre, volontairement sobre. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont... Enfin, voilà, on n'en rajoute pas, mais non pas parce qu'on ne veut pas être généreux, mais simplement parce qu'on n'a pas le cœur à ça. On est dans la souffrance. Les statues sont voilées, tout est voilé, tout est masqué. Le ciel, alors là, on est dans la mauvaise chapelle pour ça, mais c'est dans l'église, on a tout voilé, mais pas ici. On est dans la souffrance, le Seigneur... le ciel s'est obscurci, comme je le disais hier, les ténèbres sont là, le ciel s'est fermé. On a l'impression que le ciel s'est fermé. On a l'impression que le Père est silencieux par rapport à son Fils. Il laisse faire. Il laisse le mal se déchaîner sur son Fils. Chose inadmissible. Mais vous verrez, le Père souffre. Le Père, il le fait parce qu'il sent qu'il faut passer par là, mais il souffre de cette histoire. Et donc tout est obscur et difficile à vivre. Et ainsi, donc, à travers le fait de voiler les statues, voilà, c'est un peu ce que l'on veut montrer. Et tout est dépouillé aussi, l'autel est dépouillé. Hein. C'est le dénuement du Christ, le Christ est nu. Hein. Son humanité est présentée au monde. Et on a l'impression qu'il n'a pas le pouvoir divin de donner la vie. Il accepte. Voilà. Le démon semble gagner. Il faut accepter ça. Qu'aujourd'hui, il faut laisser donner l'impression au démon de gagner. Et nous savons qu'il n'aura pas le dernier mot, mais il faut accepter de passer par là. C'est vraiment ce que j'avais dit dans une homélie il y a quelque temps, en semaine, c'est que le Christ, comme le peuple de Dieu que nous sommes, croit vraiment que Dieu intervient quand on le prie. Quand on le supplie, il intervient. On sait qu'il intervient. Par contre, quand on regarde ce qui se passe avec Jésus, son intervention ne se fait pas avant sa mort. Il accepte le Père qui entend la prière de son Fils, eh bien, laisse quand même son Fils mourir. Ça nous dit beaucoup de choses sur l'exaucement de la prière. Le Seigneur entend la prière, mais n'exauce pas comme on voudrait. Nous, on voudrait être libérés du mal et de la mort comme ça, passer à côté. Mais non, il accepte, son Fils va passer par le mystère de la croix, il va même mourir. Tout va sembler être dans l'échec, échec apparent complet. Et pourtant, voilà, nous connaissons la suite de l'histoire, mais on en parlera demain. Mais il faut accepter de voir cela. Le Seigneur est fidèle, et pourtant... Il laisse le mal se déchaîner, le démon gagner, apparemment. Voilà. Donc la Passion actualise le récit de la Passion que nous allons vivre cet après-midi, hein, qui sera très à la fois solennel et sobre, eh bien, actualise l'événement de la Passion. C'est dans le récit de la Passion. Je vous parlais d'hier, autrefois, dans les premiers millénaires, on ne savait pas trop combien il y avait de sacrements. Certains disaient que la proclamation de l'Évangile était un sacrement. Et de fait, elle porte une sacramentalité, c'est-à-dire elle a une efficacité. Quand on proclame la Passion solennellement, c'est pour ça que ça ne peut être que les ministres ordonnés qui le font, c'est la raison, c'est pour cette raison-là. Eh bien, le récit de la Passion a une exception, c'est que, en plus des ministres ordonnés, on peut y associer des fidèles laïcs quand on manque de prêtres ou de diacres pour proclamer l'Évangile. Ça, c'est une petite... Pour de façon à le rendre plus vivant, en fait, plus facile à suivre. Et donc, il s'actualise la Passion, on écoute la Passion. Alors là, c'est là qu'est le Shema Israël, que le Seigneur demande dans la Torah à son peuple, et c'est vraiment valable pour nous. Écoute, écoute, écoute Israël, écoute mon peuple. Donc, écoutez la Passion et de le vivre. Et alors... Et regardez le Sauveur, ce qu'il est en train de faire. Alors nous sommes à la fois le Christ qui meurt, parce que nous sommes membres de son corps. Donc c'est toujours dans la même continuité d'hier, ce corps mutilé par le péché des hommes. Je vous parlais des péchés récents, dramatiques, qui fait que Jésus est encore plus flagellé qu'on le pensait, encore plus maltraité qu'on le pensait, il reste plus... il reste plus, enfin voilà. Et puis, mais nous sommes aussi les bourreaux et tous les autres personnages. Et enfin, je conseille souvent de faire cette expérience, de méditer en prenant la place des personnages qui sont autour de la passion du Seigneur, en prenant les différentes places, parce que nous sommes un petit peu tout ça. Voilà. Et nous sommes particulièrement la foule. Dans l'idéal, il faudrait qu'on ait tous le récit de la Passion dans les mains pendant la lecture de la Passion, et que la foule, enfin l'assemblée, fasse le rôle de la foule. À mort, à mort, à mort. Non, pas Barabbas, crucifie-le. Enfin, bon, on n'osera jamais le dire comme ça, mais parce qu'il y a cette réalité profonde, et c'est parce qu'on vit ça qu'on sera sauvé, c'est-à-dire qu'on sera ouvert à la rédemption, on sera ouvert au salut, et qu'on accueillera avec joie la puissance de la résurrection dans nos vies. Alors, il y a, dans l'évangile de Matthieu et de Marc, il y a ce fameux évocation, enfin, il y a les dernières paroles de Jésus crucifié. Je ne vais pas les reprendre toutes, mais parce que je veux développer autre chose, mais il y a quand même cette parole du psaume 21 ou 22 selon les Bibles. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Alors si vous pouvez, parce que je ne vais pas le reprendre, je voulais le faire, mais je pense que je serai trop long. Donc si vous pouvez, aujourd'hui, essayez de... Bon, je ne sais pas si vous avez le temps, hein, mais essayez de le relire, parce que ce psaume 21, enfin moi j'avoue que... Quand je suis rentré au séminaire, un jour, je me souviens encore, dans une voiture, un prêtre me dit « Tiens, mais je vais dire l'office du milieu du jour, du vendredi, je ne sais plus combien. » Bon, ben très bien, j'ouvre le bréviaire, et moi, j'avais jamais fait attention à ce psaume. Parce que il passe assez inaperçu, en fait. Donc c'est lu dans l'office des heures, mais c'est dans une petite heure. Donc, alors ce matin, ceux qui étaient à l'office ce matin, on l'a lu, hein, on l'a prié, à l'office des lectures. Mais donc c'est le psaume mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Alors, l'évangile de Matthieu et de Marc lance ça et ensuite nous laisse là-dessus. C'est très important de l'entendre, parce que justement, on pourrait ne pas entendre la première parole. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? D'entendre ce cri, voilà, je vous parlais des statues voilées, du silence de Dieu, vraiment, du silence du Père, qui souffre et qui reste silencieux vis-à-vis de son Fils. Qui va intervenir, mais plus tard, qui laisse aller le mal jusqu'au bout, pour que nous puissions, l'épée qui nous était dirigée vers nous, de la perdition, eh bien Dieu le retourne contre lui, le Père accepte que ce soit le Fils qui reçoive le coup d'épée au lieu de nous. Donc il accepte que son Fils, qui n'a pas péché, qui ne devait pas mourir, Marie n'est pas morte, hein, parce qu'elle est sans péché, eh bien, il accepte que lui va vraiment mourir. Puis en plus, une mort de condamné, les pires de l'époque, et puis ensuite, il va vraiment être enterré, voilà. Donc, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et ensuite, il faut lire le déroulé, et on est surpris. On est surpris de l'actualité, comment il actualise le mystère de la Passion de Jésus. Enfin, comment la Passion de Jésus réalise ce psaume. Ils m'ont percé les mains et les pieds, ils ont partagé mes vêtements, etc. Et à la fin, c'est pour ça que c'est bien de le méditer, à la fin, la parole d'espérance. La terre entière se souviendra, etc. Et même une allusion à son Église. Et moi, je vis pour lui ma descendance. Donc c'est le Christ qui prie sur la croix. Et moi, je vis pour lui, pour le Père. Ma descendance le servira. Ma descendance le servira, son Église. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Dieu crée quelque chose de nouveau. Alors, revenons à l'évangile de Jean. Dans le récit de la Passion de Saint Jean, eh bien, il y a plusieurs éléments, mais je retiens deux, moi, parce qu'on ne peut pas tout dire. Marie. Dans le Tridéum Pascal, je vous ai dit que c'est une unité. Hein. Ben, le Tridéum Pascal, si vous regardez, elle est où, Marie ? Eh bien, elle est là. Elle est là, au pied de la croix, debout, Elle accompagnait son fils. Elle est au cœur du Tédéum, au moment le plus important où Jésus donne sa vie, meurt pour nous, comme une maman au chevet de son fils en train de mourir. Et donc, Marie est là, elle est debout, hein, manifestant ainsi sa foi. Et puis Marie, à ce moment-là, alors c'est un truc incroyable, Jésus, alors qu'il n'est pas en bon état, hein, il n'est pas en forme, hein, ben Jésus il dit, tu t'occuperas, Marie, tu prendras pour fils Saint-Jean, et puis Jean, tu vas t'occuper de Marie. Et l'Église a toujours compris cela comme étant que Jésus, qui continue à former son Église, eh bien, il confie. Voilà, il dit, Marie, il va falloir que tu t'occupes de ton Église, de l'Église, des fidèles. Et puis l'Église, elle, il va falloir aussi qu'elle prenne soin de Marie, c'est-à-dire qu'elle le prenne vraiment que l'Église, que les fidèles prennent Marie chez eux. Voilà, alors ça a été développé beaucoup après par Saint-Louis-Marie Gaumont-Fort chez nous, et Saint-Jean-Paul II, etc. La liturgie est discrète en Occident sur la place de Marie, sur Marie, mais par contre elle est là, vous voyez, au cœur du Tridéum, et dans une scène de dévotion à Marie. Hein, alors on n'a pas tous les mêmes missions, il y en a certains qui sont appelés vraiment à parler de l'attachement à Marie, mais de façon générale, par exemple la petite Thérèse de Lisieux, elle était profondément mariale, mais parlait très peu de Marie. Par contre, elle vivait tout avec elle. En fait, il ne faut pas en parler beaucoup de Marie, on n'est pas obligé d'en parler beaucoup. Il suffit de vivre avec elle, de la prendre chez soi et de nous demander de nous aider. Et elle est très importante, Marie, aussi, pour plein de raisons. Mais une raison dans ce contexte particulier, c'est qu'elle garde la foi. Elle est peut-être la seule. On ne sait pas l'état de Saint-Jean à ce moment-là. Il était là, mais on ne sait pas dans quel état. Les autres saintes femmes, on ne sait pas dans quel état elles étaient. Mais Marie, elle garde la foi, elle garde l'espérance. Une espérance douloureuse, hein. Elle ne sait pas comment, le dénouement, elle ne connaît pas la suite, elle ne connaît pas l'histoire, mais elle sait que Dieu est fidèle. Donc Marie nous aide dans les épreuves. Hein, quand tout, comme dit Saint Bernard, quand tout semble obscur, regarde l'étoile, regarde Marie. Elle a toujours confiance. Quand tout va mal, quand le pire s'abat, regarde Marie. Alors il y a une très belle... Alors c'est la compassion de Marie pour son fils aussi qui souffre. Hein. C'est ce moment-là que se réalise cette parole prophétique qui lui a été dit qu'un glaive transpercerait son cœur. Hein. C'est à ce moment-là que ça se fait. Hein. Marie est la figure de l'Église qui souffre au long des âges sur toute la surface de la terre. L'Église, comme Marie, est appelée à partager la gloire de la résurrection du Christ et la souffrance du Christ. Alors, il y a une belle composition du XIIIe siècle, qui est une séquence, qui est le Stabat Mater. Alors, ça m'a été rappelé récemment par quelqu'un que j'ai rencontré, mais c'est vrai que, alors, on la chante pour Notre-Dame des Douleurs le 15 septembre, enfin, normalement, mais elle est très très belle. Alors, je vais vous la dire. Figée de douleur, la mère était là. Alors, je vous la dis en français, hein. Vous préférez, non ? Moi, je suis d'accord aussi. Figée de douleur, la mère était là, tout en larmes, auprès de la croix, alors que son fils y était suspendu. Son âme gémissante, désespérée et souffrante fut transpercée d'un glaive, qu'elle était triste, anéantie, la femme entre toutes bénie, la mère du Fils unique. Dans le chagrin qui la poignait, cette tendre mère pleurait, son fils mourant sous ses yeux. Quel homme, sans verser de pleurs, verrait la mère du Seigneur endurer si grand supplice? Qui pourrait, dans l'indifférence, contempler une telle souffrance, la mère auprès de son fils? Pour toutes les fautes humaines, elle vit Jésus dans la peine et sous les fouets meurtris. Elle vit l'enfant bien-aimé mourant seul, abandonné. Revive le douloureux sort et les plaies au fond de moi. Fais que ces propres plaies me blessent, que la croix me donne l'ivresse du sang versé par ton fils. Je crains les flammes éternelles, ô Vierge, assure ma tutelle à l'heure de justice. Je suis désolé, j'ai dû me mélanger dans les... Je ne vous dis pas tout parce que c'est plus long. Là, c'est pareil, vous pouvez chercher sur Internet, c'est très beau. C'est une très très belle méditation, très touchante. qui est bonne pour nous aider à vivre ce temps avec Marie. Voilà, je voulais passer un autre thème qui est propre à Saint Jean, à l'évangile de Jean. Hein. C'est l'évangile qu'on relit donc tous les ans pour le Vendredi Saint. Hein. Les autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc, on les lit en alternance sur 3 années, le jour des rameaux. Mais c'est l'évangile de Jean. C'est le cœur ouvert de Jésus. Alors, sans doute le savez-vous, sans doute l'avez-vous remarqué, le cœur ouvert de Jésus, c'est après la mort de Jésus. Jésus est déjà mort. Il a déjà rendu l'esprit. Et on lui ouvre son cœur. Alors, la caractéristique d'une plaie après la mort de quelqu'un, c'est que la chair ne réagit plus. Normalement, quand on a une plaie, normalement notre chair a une réaction pour essayer de se resserrer, pour refermer la plaie, hein, pour cicatriser. Et là, comme c'est fait après la mort de Jésus, la plaie du côté reste béante, grand ouverte. C'est dans le plan de Dieu. C'est dans le plan de Dieu, elle reste ouverte, c'est le cœur de Jésus qui est ouvert, et de là jaillissent du sang et de l'eau. Là encore, je l'ai évoqué hier, les pères de l'Église, ils verront vraiment le Seigneur qui façonne son Église de son côté, comme Dieu a façonné Ève du côté d'Adam. Donc, le sang et l'eau vont être vus comme étant les sacrements, et particulièrement l'eau, le baptême, et le sang, l'Eucharistie. Voilà, cette plaie reste ouverte, montrant le désir de Dieu. Et quand on va, alors j'anticipe un tout petit peu sur la suite, quand on va vénérer la croix du Seigneur, Jésus est déjà mort, puisqu'on a déjà entendu la passion, tout ça. On vénère la croix du Seigneur avec le crucifié dessus, hein, toujours chez nous, chez les... Eh bien, en fait, on s'approche de cette plaie, on contemple cette plaie ouverte, ce cœur ouvert de Jésus. On va vénérer ce cœur particulièrement. Alors, je vais vous lire pour cela encore un très beau passage de Sainte Catherine de Sienne. Hein. Je rappelle, elle est docteur de l'Église du XIVe siècle. Alors, Jésus, voilà ce que Jésus dit à Sainte Catherine, hein, parce qu'elle avait des révélations comme ça, comme beaucoup d'entre vous. Mon désir du genre humain était infini. C'est Jésus qui parle. Mon désir du genre humain était infini alors que les tourments et les souffrances que j'endurais étaient finis. Aussi n'est-ce point avec ce qui était fini que je pouvais montrer tout l'amour que j'avais pour vous, puisque mon amour était infini. Il y avait une limite dans le corps de Jésus, il ne pouvait pas montrer l'infini. Bon, voilà. Je voulus donc, en vous montrant mon côté ouvert, que vous voyiez le secret de mon cœur, afin que vous voyiez que j'aimais beaucoup plus que je ne pouvais le montrer avec ma souffrance finie. En fait, le cœur ouvert de Jésus après sa mort sur la croix, c'est l'expression de l'amour infini de Dieu. Il veut donner plus. Il veut donner davantage. Et ce cœur ouvert, voilà, va être toujours compris justement comme cette fécondité, enfin cet amour que même en méditant bien la passion du Seigneur, ben on est encore un petit peu, on est beaucoup en dessous. Voilà. Et dans un autre passage, alors là c'est le Père du ciel qui parle à Sainte Catherine et qui dit ceci. Que votre asile soit toujours le Christ crucifié, mon Fils unique. Votre asile, votre refuge. Habitez, cachez-vous dans la caverne de son côté ouvert, où vous goûterez par amour, dans sa nature humaine, ma nature divine. Donc c'est toujours ce cœur hein, qui exprime plus que l'humanité de Jésus, mais l'amour divin. Alors, cachez-vous dedans. Alors c'est un peu bizarre, hein, c'est... au Moyen-Âge on n'avait pas peur du sang et tout ça. Aujourd'hui on est plus. Alors, mettez-vous dans ce côté ouvert, expression de mon amour. De ce cœur ouvert, vous trouverez ma charité et celle de votre prochain, puisque c'est mon honneur à moi, Père éternel. Et pour accomplir l'obédience que je lui avais imposée pour votre salut, qu'il courut à l'ignominieuse mort de la croix. Donc Jésus est couru dans cette mort pour pouvoir nous sauver et pour pouvoir nous montrer cet amour infini. Voilà. Donc ce côté ouvert, bon, il y aurait beaucoup à dire, hein, mais je retiens simplement ça, de prendre conscience que le Vendredi Saint, eh bien, voilà, il y a Marie, il y a ce côté, puis alors on aurait pu prendre d'autres aspects, mais ça me semblait les plus marquants. Et puis dans le côté ouvert, il y a toujours aussi cette façon. Donc on voit bien cette Église qui n'est pas simplement une institution, une organisation. Hein. Ça peut bouger, machin, mais cette Église qui Jésus choisit des disciples, voilà, il forme son Église tout doucement, tout doucement, tout doucement. Pendant toute sa vie publique, hein, il forme son Église. Jusqu'à la croix. Et même au-delà. Alors, ensuite, il y a cette fameuse prière universelle qui est le modèle de toutes les prières universelles. Elle a 10 intentions. Il y en a 5 qui sont pour l'Église. Hein, on prie parce que l'Église en a besoin, hein, vous avez compris. On prie pour l'Église, le pape, le peuple de Dieu, les catéchumènes, l'unité des chrétiens. Puis ensuite, on prie pour les Juifs, ont un statut particulier, peuple de la première alliance, hein, dont Dieu n'enlève pas ses promesses. Hein, il est toujours fidèle à son peuple. Ensuite, on prie pour les païens. Alors, on prie en deux intentions. Une intention pour les païens qui croient en Dieu, mais qui ne croient pas en Jésus. Alors là, on sait qu'on pense en particulier aux musulmans, quand on fait ça. Pas uniquement, mais particulièrement. Et puis, donc en dehors des juifs, on distingue juifs et ceux qui croient en Dieu, mais pas en Jésus. Et puis, on prie pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Des athées. Donc voilà. Et ensuite, on prie pour, comme on fait dans les prières universelles, pour les pouvoirs publics et pour ceux qui souffrent. Hein, c'est toujours des intentions importantes de prier toujours pour ceux qui souffrent. C'est la dernière intention. Donc c'est des grandes prières parce que le Père ne peut plus rien refuser. Son Fils a tout donné. Le Père ne peut plus rien refuser. L'Église peut tout demander. Et de fait, vous remarquerez comment ça, c'est pas, on ne fait pas la prière comme d'habitude, puisqu'on a d'abord, le diacre qui lance une invitation au peuple de Dieu qui est là, tout le monde, hein, le peuple de Dieu c'est toujours tout le monde, c'est tous les baptisés, prêtres inclus, lance une invitation, il dit « prions pour l'Église ». Temps de silence. Alors habituellement, c'est comme si une prière très fervente, on va dire, on propose l'agenouillement. Ah bon, alors, je le dis de façon générale, hein. La liturgie prévoit des positions du corps, mais évidemment, on fait en fonction de notre santé. Le Seigneur, l'important, c'est comme dans le cœur. Mais le corps, je vous le disais, on prie avec son corps. Donc voilà, donc ceux qui peuvent, ils s'agenouillent pendant un instant, ils se relèvent. Et on va faire ça 10 fois. On a déjà fait ça juste avant, pendant la Passion, puisque pendant la Passion, on s'est agenouillé aussi au moment où Jésus est mort, dans le recueillement. Et là, c'est vraiment la ferveur de la prière avec son corps, ça fait un peu mal aux genoux, ou au dos, je ne sais pas où, ça dépend des gens. Mais voilà, donc on fait un petit effort pour ceux qui peuvent. Hein, encore une fois, hein, c'est très clair, c'est pareil quand le récit de la Passion, normalement, on fait tout debout. Mais sauf au moment où on s'agenouille, au moment de la mort, mais sinon c'est tout debout. Mais les gens qui sont âgés, qui ont des problèmes de santé, il faut qu'ils s'assoient. Ça n'a pas de soi. Voilà. Mais ceux qui peuvent, par contre, voilà, c'est toujours pareil. Il faut toujours faire le meilleur de soi, donner le meilleur de soi. Voilà. Et donc, on s'agenouille et ensuite on se relève. Il y a une oraison qui est faite, une prière qui est faite, qui est la prière du Christ. Qui est aussi la prière, comme on dit, in persona Christi, in persona ecclesiae. Hein, c'est-à-dire, c'est toujours un peu les deux. Hein, c'est le Christ qui prie, c'est l'Église qui prie, ça se confond un peu, ça se mélange. Là, vous regardez dans la prière de l'Église, c'est beaucoup comme ça. Hein. Il y a un mélange, in persona ecclesiae, in persona Christi, ça se mélange continuellement. C'est à la fois le Christ qui intercède, et c'est aussi son Église, mais l'Église est le corps du Christ, donc voilà. Voilà, donc cette prière universelle est une prière dont on peut croire qu'on est exaucé. Et là encore, c'est pareil, hein, l'heure de l'exaucement, l'unité des chrétiens, par exemple, la paix dans le monde, pour ceux qui souffrent, bon, c'est pas toujours... voilà. Mais l'exaucement est certain, parce que le Christ a tout donné. Alors, voilà. Ensuite, la vénération de la croix. Alors nous vénérons vraiment la croix de façon particulière aujourd'hui. Sur la croix, tout est là. La misère humaine est là. S'est abattu, le mal s'est abattu sur le Seigneur crucifié sur la croix. Donc nous les catholiques, la croix est avec le crucifié, parce que c'est le crucifié qu'on vénère. La croix, c'est l'instrument du supplice. Alors après, on aime aussi les croix. On met ça en pendentif, etc. Parce qu'on aime la croix, parce que c'est l'instrument du supplice qui nous a fallu le salut. Donc on vénère cette croix glorieuse. Mais c'est le crucifié. Là, aujourd'hui, ce sera vraiment le crucifié, parce que la résurrection, on est dans l'attente de la résurrection. Donc on contemple le crucifié. Donc, alors là, nous l'adorons, c'est pareil. Normalement, on se met à genoux, on fait une génuflexion, on se met à genoux devant cette croix. Alors que d'habitude, vous savez, dans la liturgie, on fait la génuflexion que devant Saint-Sacrement. Là, on nous propose de le faire devant la croix, encore une fois, pour ceux qui peuvent, évidemment, pour nous montrer, parce qu'on prend conscience de cet amour, de cette réalité de l'amour de Jésus donné, offert totalement. Alors le dévoilement de la croix est progressif. Alors il y a plusieurs manières de présenter la croix, soit en avançant en trois étapes, soit en le dévoilant. Donc nous habituellement on fait plutôt en dévoilant en trois étapes. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde, venez adorons-le, venez adorons-le. Et donc on nous présente la croix parce qu'on sait déjà qu'on va être sauvé, et on nous le présente à trois reprises. À trois reprises, on va dire ça, et à chaque fois, on va dire « Venez, adorons ». Alors, cette répétition, c'est quelque chose d'assez traditionnel dans la liturgie de l'Église, assez peu présent dans la liturgie latine, mais on l'a quand même au début de la messe, par exemple, dans les Kyrie qui se succèdent. Donc c'est pareil, « Seigneur, prends pitié hein. ». On l'a aussi dans les professions de foi, dans les renoncements à Satan et dans la profession de foi en trois reprises. C'est aussi trinitaire, mais c'est pas que c'est pas l'unique signification. La signification, quand on répète la même chose, c'est qu'on veut interpeller dans notre attention, c'est qu'on veut susciter la ferveur, susciter l'attention à ce qui se vit. La première fois, on est distrait, on dit « oui, adorons-le oui. ». La deuxième fois, « mince, il me fait répéter pourquoi ?»« Oui, adorons-le, oui, d'accord. » La troisième fois, on fait gaffe, quoi. Donc c'est ce côté un peu insistant de la liturgie de l'Église qui interpelle les fidèles, les baptisés, pour que vraiment ils le fassent, qu'ils prennent conscience de ce qu'ils font, quoi. Ils ne passent pas à côté, hein, sinon une parole passe vite. Hein. On dit « ah ben mince, j'étais distrait ». Mais là, on est moins distrait, parce qu'on insiste. On dit « il répète, qu'est-ce qu'il a à répéter ?» Voilà, mais donc il y a cette dimension-là. Chez les orientaux, c'est très très présent, cette répétition. Les orientaux chrétiens. Voilà. Donc, la croix, ensuite, nous la vénérons, on vient l'embrasser. Comme je vous disais, hein, c'est le cœur ouvert de Jésus, hein, nous pensons au cœur ouvert de Jésus, à cet amour infini qu'on vient embrasser. Et ce salut qui nous est obtenu. Parce que là, nous sommes invités aussi à rentrer dans la foi de l'Église, la foi de Marie, où nous savons que le salut... Alors, nous, on connaît la suite de l'histoire, évidemment. On sait que samedi soir, on va se retrouver pour Pâques. Mais quand même, on rentre... Il faut vraiment rentrer dans ce chemin. Et là, on est invité à entrer dans la foi, mais sans savoir comment... Le dénouement. Nous sommes invités à... On sait qu'on est sauvé, on ne sait pas encore bien le dénouement. Bon, c'est là que le sacrifice de Jésus, c'est sérieux, quoi. C'est une réalité. Et on vénère le crucifié parce que c'est dans sa chair, son sacrifice, qu'il nous sauve, vraiment. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'agenouillements ce jour. Ça me fait un petit développement sur les positions du corps dans la liturgie. Il ne faut pas les sous-estimer. La première position, c'est debout, la liturgie de l'Église. Bon, je vais commencer par ça. La position debout, c'est la position du ressuscité. C'est aussi la position du priant. Les Juifs prient debout. Dans la tradition biblique, on prie debout. C'est la position du vivant, du ressuscité. Parce que la position couchée a toujours été comprise, dans la tradition biblique, comme le symbole de la mort. quand on est couché, quand il y a les litanies, par exemple des saints, et que le futur va avoir ordonné ou bien consacré se couche, ou bien même le prêtre au début de la messe, là, qui le fait au nom de tout le monde, hein, parce que les servants d'hôtel le font aussi, enfin je ne sais pas trop si on le fera, mais enfin, on peut le faire, donc se mettre complètement couché, c'est le symbole de la mort. C'est-à-dire on donne tout. On meurt avec le Christ pour vivre avec lui. Voilà. Et donc le symbole du... Donc on ne prie jamais couché. Alors on peut prier dans son lit, c'est bien quand même pour s'endormir, mais normalement on ne prie pas couché parce que c'est le symbole de la mort. Et c'est vrai qu'autrefois, on considérait que le sommeil était une petite mort. C'est pour ça que dans la tradition de l'Église, le soir, il y a les complis. Et dans les complis, dans la prière de l'Église du soir, il y a cette « Maintenant, au maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. » Voilà, on peut mourir. Parce qu'en fait, c'est cette petite mort du sommeil. Et d'ailleurs, on voit bien, il y a des gens, par exemple, qui sont un peu dépressifs, qui n'ont plus le goût à la vie, et bien ils ont envie de dormir. Parce qu'au moins, la journée passe mieux. Enfin, passe mieux, j'en sais rien. Mais pour dire, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc voilà, coucher, c'est la mort. Et donc, debout, c'est le vivant, le ressuscité. C'est le priant, celui qui est veillé, qui est l'éveillé. Celui qui est éveillé, qui voit l'invisible. Donc cette attitude de prière est fondamentale dans l'Église. On prie beaucoup debout, beaucoup debout. Et les orientaux, qui prient énormément debout, encore plus que nous, eh bien, de temps en temps, parce qu'ils sont comme nous, ils sont pécheurs, ils font des métanies, c'est-à-dire qu'ils se prosternent à terre jusque la tête au sol. Hein, parce que c'est-à-dire qu'il faut vraiment s'humilier. Hein, mais c'est l'orgueil, ici. L'orgueil, le péché d'orgueil, le péché originel. Et donc on se prosterne à tête, la tête au sol, mais aussitôt ils se relèvent, parce que le Seigneur ne les laisse pas coucher, ne les laisse pas. Il les relève aussitôt. Donc ils font des métanies, c'est super physique. Hein. J'ai vu ça récemment quand j'étais à Rome, il n'y a pas longtemps, là. Eh bien, il y avait une famille, parce que maintenant, il y a, que ce soit à Jérusalem ou même à Rome, il y a plein d'orientaux, et en particulier des Russes qui viennent, alors à Jérusalem beaucoup plus encore. À un moment, dans une église, on est allé vénérer, des reliques, de la Sainte Croix, je crois. C'est quand même pas rien. Et donc il y avait une famille, hein, papa, maman et les enfants, et qui étaient là, alors qu'ils embrassaient évidemment les reliques, parce que ça fait partie des trucs spontanés. Hein, par exemple, moi, j'ai connu un juif orthodoxe qui s'est converti à Jérusalem, et ben quand il arrivait, lui il connaissait rien, hein, on l'avait pas catéchisé. Quand il arrivait dans la chapelle de la communauté où j'étais, et bien il se précipitait, il allait embrasser le tabernacle, parce qu'on embrasse la Torah spontanément, on embrasse la Torah dans les synagogues, et lui qui devenait chrétien, et ben il y avait compris que Jésus était là, il l'embrassait. Alors nous on n'ose pas, puisqu'on n'est plus. Voilà. Puis c'est vrai que bon. Mais embrasser, c'est spontané. Enfin, ça fait tout le monde qu'on embrasse ce qu'on aime. Voilà. Et donc voilà. Et puis ensuite, il faisait ses métanies. C'était très impressionnant. Il faisait d'innombrables métanies devant la croix du Seigneur. Voilà. Donc nous on fait pas les métanies. Par contre, on a l'agenouillement qui s'est beaucoup développé en Occident, hein, qui est moins présent aujourd'hui, mais que je pense on redécouvrira aussi. Il y a différentes raisons pour lesquelles on l'a un petit peu, peut-être plus négligé ces derniers temps, mais donc la prière fondamentale, c'est la prière debout. Hein, donc je vérifie si je vous ai tout dit. C'est un signe de respect aussi pour le Seigneur. Hein, et c'est pour ça qu'on se met debout, alors c'est l'attitude de la prière, on se met debout au début de la messe, quand on chante le chant d'entrée, on se met debout parce qu'on accueille le Seigneur qui vient. Hein, comme quelqu'un qui rentre dans une classe, clac, tout le monde se met debout. Donc il y a tout ça, signe de respect. On se met aussi en debout au moment de l'évangile. Le Seigneur parle. Tout le monde se lève. Le Seigneur parle. Voilà. Évidemment, typiquement pascal, hein, du ressuscité, du vivant que nous sommes, ressuscité avec le Seigneur. Et puis aussi de l'attente bienheureuse. Parce que l'attitude debout, c'est une attitude d'attente. Hein, c'est pas une attitude où, normalement, on se met debout pour bouger. Donc c'est pas une attitude où on est quand on est assis. On peut attendre tranquillos. Là, c'est vraiment l'attente un peu impatiente. Hein, c'est l'attente du retour du Seigneur dans la gloire. C'est aussi cela, l'attitude debout. Donc tout ça, quand on vit, quand on prie debout, il faut penser à tout ça. Puis aussi, il y a un autre aspect, et c'est valable pour les prêtres ministres ordonnés et pour les fidèles qui sont aussi prêtres par leur baptême, c'est l'attitude du prêtre qui sacrifie. Hein, le prêtre, à l'autel, sacrifie debout. Hein, donc il fait, le sacrifice se fait debout. Bien sûr, je fais allusion à la première alliance. Et donc, mais en même temps, la liturgie, le prêtre est toujours debout quand il fait célèbre, dit la prière eucharistique. Et nous-mêmes, nous sommes debout. Voilà. En tout cas, certainement pas assis, sauf si on a des soucis de santé. Hein, pas au moment de la... Voilà. Donc ça, c'est l'attitude debout, attitude fondamentale. La deuxième attitude, c'est l'attitude... Attends, il faut que je vérifie quand même mon temps, là. Le deuxième attitude, c'est l'attitude assis. Alors, l'attitude assis, c'est l'attitude de l'écoute. C'est pour ça qu'on écoute, on écoute la parole de Dieu, on écoute l'homélie assis. On écoute aussi, c'est l'attitude aussi de méditation, c'est l'attitude confortable qui nous permet de rentrer en nous-mêmes, de nous intérioriser. Donc c'est une attitude qui est secondaire. Hein. Mais aussi c'est l'attitude de celui qui enseigne. Normalement, l'évêque, le pape, alors le pape actuel ne le fait pas trop, mais le pape Jean-Paul II le faisait pas mal, pape Benoît XVI je pense aussi, il prêche assis. Il n'a pas besoin de se mettre debout pour imposer son autorité. Moi je suis obligé de me mettre debout, parce que sinon vous ne me croiriez pas. Pour en imposer un petit peu, là, puis je me mets au-dessus, là, pour être sûr. Quand même. Mais voilà. Comme eux, ils n'ont pas besoin. Assis, les fidèles écoutent. Et même dans l'Antiquité, on a des traces chez les pères de l'Église, les évêques qui étaient pères de l'Église, ils étaient assis pour prêcher et les fidèles étaient debout à côté d'eux. Et en plus, ils prêchaient pendant trois quarts d'heure. Alors, il faut le faire. Hein. Oh, mais ils étaient courageux, les fidèles, à l'époque. Non, voilà. En tout cas, voilà. La position assise, c'est aussi la position du docteur. C'est la position du Christ qui règne, le pantocrator, comme on dit. Hein, c'est très... Voilà. Et donc, on retrouve l'évêque quand il est assis. Hier, si vous étiez là, bon, il a reçu l'évêque les dons, les offrandes, assis, pour montrer... Voilà, c'est vraiment l'attitude du Seigneur qui est dans les cieux, qui accueille notre offrande et qui les transforme, qui leur donne de la valeur. Voilà. Bon, l'attitude debout aussi, j'ai oublié tout à l'heure, c'est l'attitude de louange. L'attitude de celui qui loue. Enfin, voilà, à genoux, maintenant. L'attitude à genoux, c'est une attitude qui est donc la deuxième attitude après l'attitude debout. C'est l'attitude qui a plusieurs sens. Hein. Il y a l'attitude pénitentielle de celui qui demande pardon. Il y a l'attitude pour montrer que notre péché nous a jetés à terre. Attitude pénitentielle, je demande pardon. Notre péché nous a jetés à terre, donc voilà. C'est une attitude d'humilité. On reconnaît qu'il y a un plus grand que nous. C'est l'attitude de la prière suppliante et individuelle et suppliante. Individuellement, on peut prier à genoux. Voilà. Et puis, c'est l'attitude d'adoration. Comme dit saint Paul, il fléchit les genoux en présence du Père. En Éphésiens 3. C'est-à-dire que c'est assez facile à imaginer. Je pense que s'il y a quelqu'un qui nous impressionne beaucoup, on est complètement, on a les jambes qui flagellent, qui tac, et on tombe à genoux. On ne peut pas s'en empêcher. On est complètement. Ah. Si vous avez une apparition, tac. Voilà. Il y a cette fameuse hymne aux Philippiens qui dit bien aussi. Alors je ne vais pas le relire complètement parce que pour avancer, mais la fin de l'hymne aux Philippiens 2, qui est une très belle hymne, hein, du Seigneur prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, l'incarnation. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix, ce que l'on vit. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, hein, donc la résurrection. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, au ciel, sur terre et aux enfers. Et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc c'est cette attitude d'adoration. Voilà, on est ébahi. Donc c'est une attitude qui est difficile à vivre, parce que c'est une attitude vraiment d'humilité, et ça va vraiment à l'encontre de... Moi, dans quel contexte, on me disait, je ne sais pas trop au niveau de mes péchés. Enfin bon, il y avait un dialogue sur le péché. Et puis en fait, sur le moment m'est venue cette idée que il y a un point commun entre tous nos péchés, à tous. C'est le péché, c'est l'orgueil. Il y a plein de formes de péchés, il y a plein de péchés différents. Voilà, on a chacun, il y en a qui vont être jaloux, il y en a qui vont se décourager, il y en a qui vont... Mais tout ça, en fait, au fond, c'est l'orgueil. Et l'attitude à genoux exprime notre profonde humilité. Et donc, c'est une attitude difficile. On peut avoir des difficultés à s'agenouiller, je ne parle pas pour des problèmes de santé, mais s'agenouiller parce que j'ai pas envie de m'écraser comme ça. Zut alors. Puis le Seigneur, il me veut debout, ce qui est vrai. Mais il nous relève. Parce que là, justement, c'est pour ça, le Vendredi Saint, on se met à genoux pour être relevé à Pâques. Donc voilà, cette attitude... voilà. Et Benoît XVI fera remarquer dans une de ses méditations que le démon, quand, dans la représentation habituelle du démon, hein, c'est le bouc, c'est représenté comme un bouc, et en fait le bouc il n'a pas de genoux, il ne peut pas s'agenouiller. Impossible. Donc voilà, c'est celui qui ne s'agenouille pas. Et il dira aussi, Benoît XVI, il dira en fait on s'agenouille, nous on s'agenouille devant Dieu, on se met en adoration, en humilité devant lui, pour ne s'agenouiller devant rien d'autre. Ça veut dire que ça donne une force incroyable. On ne va pas s'agenouiller devant autre chose, ni devant les événements, ni devant les personnes. Rien ne nous écrasera. Parce que c'est parce qu'on s'agenouille devant lui pour qu'il nous relève. Et parce qu'on reconnaît que c'est lui, le vrai Dieu, l'unique. Et je sais que les enfants, dans l'éducation des enfants, les enfants sont très sensibles à voir leur père en particulier, mais aussi leur mère, mais leur père en particulier se met à genoux. Parce que le papa, c'est quand même sa protecteur, c'est quand même celui qui, quand il se met à genoux devant Dieu, ça montre que le papa, il compte aussi sur Dieu. Et quelque part, il y a une transmission de la foi qui se fait de façon assez exceptionnelle par ce geste-là. Ça suffit pas, hein, mais... Voilà. Alors, on m'a demandé plusieurs fois qu'est-ce que l'Église demande exactement au niveau de l'agenouillement actuellement dans l'Église. Vous savez que dans la PGMR, dans la présentation générale du missel romain nouveau de Paul VI, hein, après le Concile, eh bien, les positions des fidèles sont précisées. Hein, je vous parlais de position debout, je vous ai évoqué quelques-uns, position à genoux, position assis. Et donc, dans la PGMR, ce qui est demandé, c'est ceci. Je vous le dis, puis après, je vous le dis pas pour... je vous le dis pas pour que vous obéissiez, je vous le dis pour vous informer, pour vous mettre, voilà, que vous sachiez. Parce que quelquefois, des gens se posent la question. Donc ce qui est précisé, c'est que quand c'est possible, hein, c'est-à-dire quand la santé le permet et quand l'espace liturgique le permet, c'est-à-dire parfois on est coincé parce qu'on est trop serré, quand c'est possible, on se met à genoux à la consécration. C'est-à-dire au moment où le prêtre invoque le Saint-Esprit, jusqu'au moment de l'anamnèse, on dit... il est grand le mystère de la foi, où le prêtre s'exclame « Il est grand le mystère de la foi » et les fidèles renchérissent. Voilà, donc on normalement, c'est le moment, ce que l'Église demande, c'est ça. Après, l'Église dit aussi, dans la suite, elle dit, donc c'est au numéro 43 hein, de la PGMR, si vous voulez regarder la nouvelle, elle dit « Mais là, ceux qui ont l'habitude de s'agenouiller à partir du Sanctus, la fin de la préface du Sanctus, jusqu'à la fin de la prière eucharistique, c'est très bien. Il faut continuer. Donc c'est... alors, pour dire, la prière eucharistique, ça commence au début de la préface. La prière eucharistique, ça commence pas au Sanctus. La prière eucharistique commence au début de la préface. Donc on est tous debout, parce que la préface, c'est une grande acclamation de joie et de foi, voilà. Et tous, on est debout pour cela, hein, pour dire cette préface, cette louange à Dieu. Et ensuite, c'est à cause de la grandeur du mystère. Alors, chez les orientaux, par exemple, ils ne s'agenouillent pas parce qu'ils ferment les rideaux du sanctuaire. Donc, en fait, ils ne voient plus rien de ce qui se passe. Et puis ils célèbrent toujours dos au peuple, hein. Donc ils ne voient plus rien, tout est fermé. C'est comme ça qu'eux, ils manifestent la grandeur du mystère. Il se passe quelque chose de mystérieux qu'on ne saurait saisir par nos sens, pour le coup. Hein, on est dépassé là, on est un peu dépassé. Donc chez les latins, eux, l'agenouillement exprime cela. Hein. On est un peu dépassé par ce qui est en train de se passer, donc voilà. Donc il y a cet agenouillement que l'Église dit, bon ben là, voilà, c'est bien, vous pouvez continuer. Et puis, elle dit aussi, qu'au moment du « heureux les invités au repas du Seigneur », c'est-à-dire juste avant la communion, donc c'est plus une attitude de supplication, elle dit « ceux qui se mettent à genoux, c'est bien voilà. ». Là où ça se fait, c'est bien. Donc c'est les deux moments. Voilà. Donc je vous ai dit comme ça à peu près comment ça se passait. Voilà. Voilà. Ensuite, bon, passons à un autre aspect. Donc l'importance du silence. Le Vendredi Saint est un jour de silence particulier. Le silence est une prière. Le silence parle, on va dire. Le silence en dit beaucoup. Et d'ailleurs, je sais que, par exemple, dans l'accompagnement des jeunes, parfois, quand on les invite à arrêter leur musique, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, on peut avoir de la musique en permanence. Quand on leur dit, quand t'es chez toi, ou bien tu peux être en silence, eh bien ceux qui, par la foi, à cause de la foi, commencent à rentrer dans le silence, au début c'est difficile. Parce qu'on est seul. Sauf si on rencontre le Seigneur. Et en fait, quand on est seul pour pouvoir écouter le Seigneur. Chut, silence, écoute. Et Shema Israël, toujours. Le silence, c'est une prière. Alors, ce Vendredi Saint, c'est vraiment le silence quand même du ciel. Hein. On se met en silence, mais on n'entend rien. On n'entend pas la réponse. C'est vraiment l'agonie. Hein. C'est vraiment le... Voilà, voilà je termine. Hein. L'absence de l'Eucharistie. Donc, on va communier aujourd'hui, mais il n'y aura pas la Sainte Messe. C'est le seul jour de l'année. Alors, le samedi saint aussi, mais oui, comme il y a la veillée pascale le soir, on n'a pas le même sentiment. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'Eucharistie, c'est le sacrifice du Christ. Et que là, comme je disais, dans l'unité du Triléum, l'Église nous invite, elle renonce à célébrer l'Eucharistie, elle nous invite à voir dans le sacrifice de Jésus le mystère eucharistique. Enfin, voilà, que ça se réponde. Donc, elle ne célèbre pas l'Eucharistie ce jour-là, aucun prêtre. Hein. Nous, voilà, il n'y a pas d'autre messe d'ailleurs. Déjà hier, il n'y avait que la messe du soir. Hein, il n'y a pas de messe en journée. Et là aujourd'hui, il n'y a pas de messe. Hein. C'est le seul jour de l'année où vraiment, nous, prêtres, on n'a pas de messe. Parce qu'après, le samedi soir, on a une messe. Voilà. Et donc, ça montre ce lien entre le sacrifice de Jésus et l'Eucharistie. Par contre, on a la communion. Parce que ça montre cette présence du Seigneur et le fait que le Seigneur prend soin de nous. Hein, il faut prendre l'image biblique de la manne dans le désert. C'est un peu comme dans le désert et on reçoit la nourriture spirituelle pour avancer, pour traverser cette agonie, pour traverser cette passion, ce chemin de croix. Donc c'est la nourriture spirituelle que l'Église ne veut pas nous priver. L'Église ne veut pas nous en priver. Voilà. Bon, ensuite, il y a l'ensevelissement. Alors, l'ensevelissement, il passe assez inaperçu chez nous. Il sera évoqué dans le récit de la Passion. Mais chez les Orientaux, et aussi à Jérusalem, chez les Latins, quand vous allez au Saint-Sépulcre, les Latins, les Franciscains, ils ont un rite de l'ensevelissement, liturgique de l'ensevelissement. C'est peut-être le seul lieu... pour les Latins, mais chez nous, les Orientaux, les Byzantins, les Orthodoxes, comme on dit, mais ce n'est pas les Orthodoxes uniquement, c'est aussi, il y a des Byzantins catholiques. Enfin, les Orientaux, eux, ils ont un office de l'ensevelissement qui se fait, ils ont déjà des offices très longs, mais ils en rajoutent, et donc ils se font après l'office de la Passion, ils ont un autre office, qui est un office plein d'espérance, où on ensevelit le Seigneur, où on met du parfum, tel que nous est dit le récit, souvent des pétales de fleurs, on met un linceul sur l'icône ou sur Jésus. Voilà. En tout cas, l'ensevelissement est un aspect important à vivre spirituellement après la passion. Demain, on ne vénère pas la croix de Jésus. On vénère aujourd'hui la croix de Jésus. Mais demain, Jésus est au tombeau. Donc il est enseveli. Et c'est important de réaliser ça. On est dans l'attente. C'est une sorte d'apaisement. Hein. C'est comme quand il y a un défunt dans la famille. Eh ben, quand on est allé jusqu'à la sépulture, qu'on l'a mis en terre, on a fait des rites, on a posé des gestes qui nous permettent de vivre le deuil. Ça apaise un peu, ça n'enlève pas la souffrance, ça apaise. Et ça permet d'être dans une attente pleine d'espérance. Voilà. Et chez les orientaux, encore une fois, l'attente du samedi saint est très festive. Chez les latins, elle l'est moins. C'est la foi de Marie, on contemple la foi de Marie. On est vraiment... on est dans l'espérance, mais c'est moins marqué. Par exemple, l'Église encourage encore le jeûne le samedi saint, pour ceux qui peuvent. S'ils peuvent jeûner aussi le samedi saint, c'est bien. Chez les orientaux, ils ne jeûnent pas le samedi saint. Alors déjà, ils sont dans la certitude que l'histoire... voilà, le Seigneur a souffert, c'est fini, il ne souffre plus. Et là, maintenant, il va ressusciter. Donc, ils attendent. Ils sont dans l'attente. Nous, on est encore dans la contemplation, dans la descente de Jésus aux enfers. Cette descente, il vient chercher jusqu'au dernier homme, le plus grand pécheur de toute l'humanité. Je ne sais pas qui c'est, mais il va descendre le chercher. Alors, dans les icônes orientales, on voit Jésus qui prend Adam et Ève symboliquement, parce que c'est les premiers avec le péché originel. Et c'est toute l'humanité à travers. Voilà. Et puis, aujourd'hui, c'est un jour de jeûne. Alors, c'est pareil, pour des raisons de santé, on peut ne pas jeûner. Et puis, à un certain âge, je ne me souviens plus des âges, je suis désolé, j'aurais dû me renseigner. Quand on est trop jeune et quand on est trop âgé. Donc, voilà, à peu près. Puis après, la question de santé. Hein, donc, on jeûne, mais alors, on peut jeûner de plein de choses. Mais c'est vrai que le jeûne de nourriture a du sens parce que... pas manger, c'est se préparer à mourir. Si j'arrête de manger, je suis pas bien, quoi. Voilà, ça veut dire quand même quelque chose. C'est anthropologiquement, c'est très fort. Hein. C'est comme l'agenouillement. Hein. C'est un des côtés... Et donc, ça travaille. Ça nous travaille au corps. Et puis, le Seigneur le dit. Hein, Jésus le dit. Hein, on se nourrit pas simplement de pain. On se nourrit de la parole du Seigneur. Donc, on se tourne vers l'essentiel. Chez les latins, on jeûne très peu. Hein, 2 jours par an. Le jeûne du Vendredi Saint, c'est un jeûne de compassion, d'accompagnement de la passion du Seigneur. Le jeûne du Mercredi Décembre, c'est un jeûne pénitentiel à proprement parler. C'est-à-dire, on jeûne parce qu'on en a besoin. Ce n'est pas tout à fait les mêmes tonalités dans les deux cas. Et donc, le Vendredi Saint, il y a ce jeûne qui est une manière de participer à nous-mêmes à la passion du Seigneur. Jésus nous a dit aussi qu'il y a des démons qui ne se chassent que par la prière et le jeûne. C'est aussi ça, parce qu'aujourd'hui, le démon, il va croire gagner, mais il va perdre. Je vous le dis déjà, mais je ne devrais peut-être pas. Il l'a, mais il va croire gagner. Mais nous, on va accompagner Jésus et on va jeûner avec lui. Voilà. Puis c'est une conversion du corps. Hein, dans l'unité de l'être, ce que je vous disais hier au début, c'est-à-dire qu'on est tout un. C'est pour ça que l'Église, dans sa prière, elle nous prend tout entier, corps, âme, esprit. Tout est intégré. Il y en a pour notre intelligence, il y en a pour notre corps, où on a des choses à faire, des choses à dire, des choses à sentir, des gestes à poser, et puis on en a aussi pour notre cœur, pour nourrir notre cœur, mais ça passe par les sens et aussi notre intelligence. Voilà. Je vais donc m'arrêter là-dessus.